Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, à Noël, on ne sait jamais quoi offrir à nos ados. Mais cette année, on a trouvé le cadeau idéal. 2 heures dans leur forfait. Et vu le prix, c'est aussi un cadeau pour nous. Alors, c'est qui les parents trop géniaux?
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez du forfait starter 2 heures à 0€ par mois pour les clients box pendant un an, puis 5€ par mois. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 8 janvier 2018 pour toute nouvelle souscription. Prix multipack sans mobile avec engagement 12 mois.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
Et Ali Benarbia et Jonathan McCarty et vous au 32-16 et également sur le hashtag. RMC Live, bien entendu. Qu'est-ce que tu fais le J'adore ce mec.
Mais il peut pas le faire avec.
Il y a une réaction de Camille90 sur l'hashtag RMC Live. J'ai toujours loué les performances de. Eh aussi, je vous dérange. Les performances de Bauken qui pour moi doit être titulaire indiscutable. Lui fait clairement partie des joueurs sous-cotés. Qu'en pensez-vous?
Oui, enfin, ne nous emballons pas, c'est un bon joueur à Strasbourg. C'est un bon joueur à Strasbourg. Moi, je trouve qu'il est puissant, qu'il a une technique relativement correcte pour son gabarit, mais c'est pas non plus un foudre de guerre. Il est dans une équipe qui lui faut. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est dans l'équipe. Il est dans l'équipe qui lui faut. C'est-à-dire que c'est son niveau.
Non.
Son niveau.
Moi, je dis simplement, c'est un joueur, un bon petit joueur, qui en ce moment brille, et c'est vrai, mais dans une équipe de Strasbourg où tout le monde brille. Par contre, ce soir, tu mettais, Nicolas attaquant face à la défense centrale des Girondins de Bordeaux.
Lequel, Nicolas?
Bah, toi.
Ah, oh, c'est sympa, Ali, mais je pense pas.
Si, si.
Non, mais je
pense
pas.
Parce que,
Terrier,
ah ouais, il est parti de 30 mètres. Ouais. Ils lui ont dit, vous avez votre ticket? Bah oui, allez-y, passez, c'est bon. Et j'en reviens encore une chose, c'est que Costil ne fait jamais.
Ah, il est
pas
bien
son équipe
fossif,
quand
hein,
ça va mal ou n'est pas décisif. Là, à ce moment-là, quand Bordeaux a la tête dans le trou, et c'est la force de Carrasso, c'était ça, pour pas les comparer. Là, Costil, il doit les aider, il doit les sauver. Tu peux prendre un but, mais le deuxième, bah, tu fais l'arrêt qu'il faut. Pourquoi? Pour garder ton équipe, qu'elle n'ait pas la tête dans le cercle.
Alors,
le problème,
après,
ça, c'est
tu sais, Costil, regarde, il le prenne, il est gratuit. C'est le gardien numéro 3 de l'équipe de France à ce moment-là.
Quand
ils le prennent, non, mais quand ils le prennent, il est numéro 3. Mais faut dire une chose, c'est qu'il n'y avait pas une priorité de recrutement à ce poste-là. Et que depuis le début de la saison, moi, j'adore Costil, c'est un mec super et tout. Mais il a pas fait la différence, il a pas été à son niveau.
Jonathan, je parle pas du bonhomme, je te parle.
Non, moi aussi, il est ni bon ni mauvais, c'est ça le problème.
Si tu recrutes Costil,
il est ni bon ni mauvais.
Il était à Rennes. Rennes n'avance pas.
Non, mais il était bon à Rennes.
Il faisait son taf à Rennes quand même.
À Rennes, il était bon.
T'es les Girondins de Bordeaux, t'es censé être au-dessus de Rennes. Et si tu récupères un gardien,
non, pas nécessairement.
Le bassin de population, le budget, bien sûr que si. L'histoire, si t'es obligé.
Bordeaux, je suis d'accord.
Non, mais Bordeaux joue toujours l'Europe.
Il y a moyen aussi.
Ils sont classés au classement.
Il y a moyen à Rennes aussi. Si vous voulez les mettre, ils les ont.
Non, mais je te parle de moyen.
Mais ils les font pas. Mais Bordeaux, ils les mettent pas non plus.
Pardon. Ils sont qualifiés pour comme on dit.
Ils sont tout le temps qualifiés à l'Europa League, ce qui n'est pas.
Ils sont sortis de la vidéotone, là, mon gars.
Non, mais ce que je veux vous dire, c'est sur Rennes, sur Costil. Non, sur Costil, le problème, c'est que c'est un gardien qui arrive avec une certaine aura, une certaine réputation, mais que depuis le début de la saison, je suis désolé, il est moins bon que ce qu'il a été à Rennes. Mais il fait pas la différence.
C'est lui qui doit apporter un plus dans cette équipe.
Mais il doit apporter un plus de la sérénité et un rôle dans le vestiaire.
Quand ça va mal, pas quand il gagne 4-0.
Exactement. Je voudrais avoir une pensée également ce soir pour quelqu'un qui apprécie beaucoup l'after et qu'on apprécie beaucoup dans l'after, c'est Baptiste Le Caplain. Voilà, ouais. Réaction sur l'after de Laurent qui nous dit ce soir l'after devrait appeler Baptiste Le Caplain pour s'assurer de son état physique, mental et moral. C'est vrai qu'il doit pas être bien, le Baptiste.
Ouais.
Voilà. Heureusement que son boulot c'est de faire des vannes. Il en a vu pas mal.
Il est pas drôle, Baptiste.
Il va kiffer demain en faisant son jogging encore. Tu sais qu'il m'envoie des vidéos où il fait son jogging en écoutant le podcast, ce grand malade. J'attends la prochaine, Baptiste. Accueillons Benjamin, supporter de Bordeaux, qui nous a appelé au 32-16. Salut, Benjamin.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir,
salut, Benjamin. Ouais,
il est comment ton état physique, mental et moral à toi, Benjamin?
Je crois que j'en peux plus jouer le vendredi soir, ça me gâche les week-ends. Je refuse. J'en peux plus.
Ça serait mieux qu'il joue le dimanche soir, c'est ça?
Et j'avais prévu de démarrer sur Costil. Ali m'a devancé. La semaine dernière, je lui avais dit qu'à 3 ou 4-0, on s'en fichait les mains opposées.
Exact, c'est pas faux.
Là, ce soir, on voit que Oukidja, il en a une à faire. Il l'a fait. Alors que c'est Oukidja qui était rang titulaire l'année dernière en Ligue 2. Là, on ne fait plus une parade avec Costil. Et je peux vous assurer que ça ne vous a pas choqué qu'il soit collé à son poteau droit.
Bah, ouais. Ali, comme il me le disait pendant le match, c'est on a l'impression qu'il a peur de se prendre le poteau en fait.
Non, c'est vrai qu'il a dit Benjamin.
Il est collé d'abord à son poteau, alors que normalement t'es milieu légèrement
il
droite.
Il est un mètre de retard parce qu'il est déjà 2 mètres à droite déjà. C'est terminé. Ouais.
Non, trop. C'est vrai.
Il peut pas lui mettre. Alors il se met là parce qu'il met quelqu'un dans le mur et nous on met personne derrière le mur parce qu'il pense qu'il va lui mettre côté gardien. Mais c'est pas possible de lui mettre côté gardien. Et Bauken ne peut lui mettre que croisé. C'est incroyable. Il est tétanisé. Et puis moi, je peux vous dire, on aimait tous Carasso ici à Bordeaux. Il commande pas du tout sa défense. Non, c'est dramatique.
Non. La preuve, c'est que la défense, elle est complètement. Or, ce soir, elle était complètement perdue. Savait pas si elle devait monter, s'y prendre autrement. Mais non, je sens pas la présence d'un troisième gardien.
Il a pas l'aura qui est censée être la sienne. Et ça, c'est problématique parce que depuis le début de la saison, il vous coûte des points. Parce que ce soir, c'est dur. Ce qu'il fait sur le coup franc, sur le but. Non, il y a 2 buts pour lui quasiment ce soir.
Il en ramène une fois à Toulouse quand on est malmené et c'est tout. Après, vous disiez tout à l'heure, cette année on a mis quand même 30 millions dans le mercato, qui n'avait pas été fait depuis longtemps. Je sais qu'il y a eu des gros renecs d'émission au stade. J'y étais.
C'est un peu dur,
mais je veux dire, c'est le fusible parce que voilà, on sait plus quoi faire. Il a changé les hommes, le système. Et je veux dire, et c'est que ça fait un petit moment, enfin, on est à une victoire en 10 matchs.
Mais Benjamin, on va pas se médire par rapport à ce que, par exemple, ce qu'on disait cet été, c'est que le recrutement, moi, je le trouvais positif.
Oui.
Tu vois. Pas moi. Je trouvais que le rageur, c'était pas mal. Au début, j'avais une bonne impression. Cafu, c'était une bonne idée. Il y avait des joueurs qui venaient et qui semblaient être séduits par le projet et par le coach. Mais le problème, il faut bien l'avouer, c'est qu'on a l'impression qu'on venait qui est totalement perdu. Tu regardes ses compositions d'équipe, tu te demandes quel sens ça. Tu regardes comment son équipe joue, la manière dont son équipe évolue sur le terrain. On comprend pas grand chose. On a du mal à définir un style. Si tu demandes à n'importe quel supporter girondin quel est le style de jeu de Bordeaux, je pense qu'on vous aurait tous du mal à répondre. Non, c'est dramatique parce que c'est un entraîneur qui est censé justement avoir un style.
Il est arrivé avec plein d'intentions. Il a changé d'effectif. Il s'est débarrassé de Yambéré, Sané, tous les profils athlétiques pour mettre du jeu. Ça a marché puisque on était invaincu pendant 15 matchs. Donc on était tous unanimes pour dire ça. Mais le problème, c'est qu'il a fait des choix. Je sais pas si vous vous rappelez, Toulalan finit la saison dernière en 6.
Exactement.
C'est exceptionnel ce qu'il fait. Et c'est lui qui maintenait le lien entre la défense et la milieu de terrain.
Tu le gardes à ce poste-là?
Mais pourquoi pas? Pourquoi pas?
Exactement. Tu dois le garder dans ce poste. C'est de lui milieu, qui capitaine, aboyeur. Et qui puisse cimenter à la fois le bloc offensif et défensif. Il n'y a plus de leader au milieu de terrain. Ça, c'est une erreur. Et les petites pépites qu'on avait à Bordeaux, les Ounas, ça et tout.
Ounas, c'est parti.
Mais il fallait se débrouiller pour garder.
Mais Ounas, tu prends 10 millions en l'achetant. Donc, il y a aussi une logique financière, Ali.
Un peu plus, non.
Mais c'est pas ça. Quand Jonathan parle du recrutement, moi, quand j'ai vu les joueurs en début de saison, j'ai l'impression d'avoir pratiquement des mêmes joueurs au même niveau. Il n'y en a pas un super fort. Et les autres, par contre, normalement, laissent cette place-là, quand je vois les Lorager et d'autres joueurs qui sont moyens, laissent cette place pour les jeunes du centre de formation. Et je le dis souvent, si ça sert à rien de ramener un joueur qui a le niveau d'un jeune du centre de formation qui peut t'apporter un plus aux Girondins de Bordeaux, soit t'amènes du lourd, soit tu gardes des places pour des jeunes du centre de formation.
Écoutez, les gars, le truc, c'est que quand je vois cette équipe-là, effectivement, je me dis que ça va pas et tout, mais quand je regarde les joueurs, je pense quand même que les joueurs sont bons. Mais je pense que des gars comme Otavio, qui est un très bon milieu de terrain, ou Cafu, il faut quand même qu'ils s'adaptent au championnat de France. Il y a eu beaucoup de changements. Et je pense aussi que ça joue contre Gombenac. Il a des joueurs qui sont pas encore habitués au rythme de la Ligue 1. On sait que c'est des bons joueurs. Otavio, je suis convaincu que c'est un très bon joueur. Je l'ai vu faire des choses que peu de joueurs peuvent faire. Cafu, je suis convaincu que c'est un très bon joueur aussi, c'est ce que je vois sur ses prises de balles.
Il faut qu'ils se réveillent, les joueurs.
Le Rager, je suis convaincu que c'est mieux que ce que tu peux avoir au centre de formation aussi. Mais je pense qu'il faut leur laisser un peu de temps et que t'as changé beaucoup de choses dans ton titulaire pour que ça marche tout de suite aussi.
Mais Jonathan, la plupart des clubs, ils nous sortent des jeunes qu'on connaissait pas. Et que même leur club disait, ouais, bon, on sait pas. Et une fois qu'ils jouent 2-3 matchs et qui sont bons, on dit ça y est.
Ok, mais y a qui là? Thomas Denon à Bordeaux.
Ali,
on ne peut pas aller voir puisque il y a d'autres
personnes
qui jouent. Ali, je peux me permettre. Là, on avait sur le banc aujourd'hui 4 champions de France U19. On n'a pas de jeunes capables de pallier. On a bien vu aujourd'hui, il a tenté de sortir Gaïc et de mettre le petit Caric.
C'était peut-être pas le match, Benjamin, pour le pauvre Gaïc.
Non, le pauvre Caric.
Ils l'ont pas aidé.
Ah non, il démarre pas. Il démarre comme ça. Mais je pense aussi qu'on peut mettre là actuellement. Moi, je suis persuadé que c'est des joueurs qui... Vous pouvez pas me dire que Depréville, ils sentent pas un peu le foot. Et que là, c'est des joueurs qui sont tétanisés.
Mais ils sont en manque de confiance.
Ils manquent de confiance. C'est terrible.
En fait, c'est l'équipe qui est désorganisée et qui pénalise des individualités.
Mais après, c'est un cercle vicieux. Enfin,
mais les joueurs sont
Je pense que les joueurs sont... Mais une fois que tu es dans une spirale négative, t'as du mal à t'en sortir.
Quand ça va mal, je l'avais dit au début de saison, t'as besoin de à peu près un leader par ligne. Cette équipe n'a pas de leader.
Ça c'est vrai aussi, c'est vrai. Non mais c'est super important problème. Ce que tu dis. C'est là le point, le point sensible. Et parce que les joueurs sont bons, mais t'as pas de tolier.
Quand tu fais tes coachs ou tes dirigeants, quand tu fais ton recrutement, tu gardes un leader par ligne. Tu ne peux pas t'en séparer.
Il y a qui? Il y a tout l'année.
Vas-y Benjamin.
Ali, on n'a pas perdu de leader entre l'été dernier et les arrivées.
Non, mais il fallait peut-être recruter ce genre de profil.
Ouais, il fallait peut-être recruter ça.
Tu vois, Ravi Garcia, à un moment, c'était très chaud.
Oui,
ça aurait été le genre de joueur qui aurait fait du bien.
On a pris Otavio parce qu'on s'est dit, parce qu'on est pareil.
Ah, tu rigoles? Mais Ravi Garcia, le salaire qu'il a, mais t'es malade.
C'était à deux doigts de se faire, Nico.
Mais non, mais ça s'est pas fait pour ces raisons-là.
C'est pas pour ça, c'est à cause de le Zénith ont augmenté l'indemnité qu'ils m'ont réclamé dans les moments.
C'est injouable, un mec pareil.
Mais le salaire, c'était bon.
Attends, Benjamin, tu disais, oui, mais la saison dernière, il n'y a pas de leader. Pourquoi? Parce qu'il y avait une continuité de bons résultats, comme on a vu à Caen, comme on a vu à Angers. Ça peut arriver dans d'autres clubs, mais sur le long terme, si tu n'as pas les leaders, tu t'en sors pas.
Benjamin, merci de nous avoir appelés en tout cas.
Merci à vous et
salut
à
Benjamin.
Bonne fin de saison à toi. Hey, déprime pas mon gars. Il y a des choses
plus grandes. On s'accroche.
Petit Pessac Léonia et ça passera.
Voilà. Ben, ça ira.
C'est vrai qu'il y a le Téléthon également ce soir. Donc si vous voulez faire des dons, c'est le 30. Non mais tu sois décollé. Non, 30.
C'est méchant de parler de Bordeaux et d'enchaîner avec le Téléthon. C'est vraiment mauvais.
C'est pas
possible.
C'est pas possible.
C'est
pas de trouver des emmerdes. Il y en a pas.
C'est pas beau.
C'est 36-37. Voilà.
Pas les pièces jaunes.
Non mais c'est important les gars. Sans déconner.
C'est pas. C'est pas beau ce qu'il fait.
Non non mais sans déconner. C'est important.
Donnez pour les Girondins.
Salut Benjamin.
Des gens qui sont plus malheureux. Les gars. Merci
pour les Girondins, dans les Indiens.
Il a dit quoi?
Donner pour les Girondins.
C'est con lui. Appelle tes dirigeants, t'es con Benjamin. Bref, on va accueillir Lilian, ultra de Bordeaux, qui nous a appelé au 32-16. Salut Lilian.
Salut.
Lilian Lasland.
Alors bonsoir, t'étais au stade toi l'équipe. Lilian.
Salut Lilian.
Voilà, moi j'étais au stade, c'était, je peux vous dire, c'était assez effrayant. L'ambiance qui règne ici. Des supporters abattus, on n'a plus de solution en tant qu'ultra, on les encourage, on esquive, on quitte la tribune, et quoi qu'il arrive, ça ne change rien. Mm. Le recrutement, quand il est arrivé, j'étais optimiste. Quand même, dit patate sur Delpréville, Cafou qui était bon à Ludo Gorette.
Octavio
aussi, que je connaissais moi, personnellement. Mais j'étais optimiste. Et là, aujourd'hui, on a quitté la tribune à la mi-temps. C'était la mi-temps. Bah, limite, on a commencé à encourager Strasbourg Bourgeois. Que je félicite parce qu'ils ont fait un super match.
Lilian, je te coupe. On te retrouve juste après ça. On va écouter Thierry Loret qui est en ce moment même en direct en conférence de presse. On rappelle que Strasbourg s'est imposé 3-0 à Bordeaux ce soir.
Si vous voulez, on va revoir toutes les situations qu'ont eu les Bordelais. Bah oui, vous pouvez regarder. Pardon ? Non, peut-être pas en première mi-temps. Ils ont eu une ou deux situations. Je pense que ça se joue à pas grand-chose pour qu'il y ait un Bordelais qui puisse toucher le ballon. Vous savez, ça, quand ça passe devant le but et qu'il n'y a pas un blanc qui la touche, ça, il peut y avoir un Bordelais quelque part. Et en deuxième mi-temps, ça, ils ont poussé quand même. Quoi. Moi, je trouve que cette équipe n'a pas lâché. Elle a cherché à jouer son jeu jusqu'au bout, à provoquer des situations. Après, voilà, il y a un petit manque de confiance. On marque un but d'entrée qui leur fait mal. Forcément, contre Saint-Etienne, c'est eux qui avaient marqué d'entrée, ça leur avait facilité la tâche. Là, c'est nous, forcément, ça nous facilite la tâche à nous. Même si on n'a pas été non plus, dominateur, faut être juste. Donc, c'est plutôt eux qui avaient le ballon, c'est plutôt eux qui imprimaient le jeu. Après, voilà, il y a quelques maladresses par moment, des choses comme ça, mais je pense qu'on a battu une bonne équipe. Qui a un gros potentiel. Ça, c'est inéluctable. Et puis, il lui manque quelques joueurs. Et quand elle va récupérer ces quelques joueurs, je pense que ce sera une équipe qui va remonter au classement sans problème. Donc, je pense qu'on a battu une très bonne équipe.
Allez, Thierry Loret, qui vient donc de faire son analyse après match. Hein. Alors, Thierry Loret, t'as vu, Lilian, il est plutôt élogieux vis-à-vis de ton équipe de Bordeaux. Hein. Lilian ?
Oui, comme tous les entraîneurs adverses. Malheureusement, on a une Malcolm dépendance qui est vraiment trop forte.
Ah, c'est pas ça, Lilian.
Il n'était pas là, ça, on rappelle.
Franchement, oui. Lilian, ce soir, c'est le néant total.
Mais attends,
et
Lilian,
ça peut pas être comme Malcolm.
Toi qui étais au stade, tu fais partie donc de ces supporters qui ont quitté l'enceinte en cours de match. Pourquoi alors avoir quitté le stade?
Bah, parce que du ras-le-bol, il n'y a pas de jeu. On avait le ballon, mais c'était stérile. On avait la pression, qu'ils n'avaient pas envie. Franchement, les premiers buts nous fait mal assez vite. Il nous fait très mal, celui-là. Et après,
ça s'est enchaîné après.
Non.
Après, je vais me faire l'avocat du diable, hein, Lilian. Bordeaux, ok, ils ont que 4 points d'avance sur Toulouse qui est barragiste pour l'instant. Bordeaux est pour l'instant 12e au classement. Il n'y a pas non plus encore péril dans la demeure, non?
Bah, aujourd'hui, on se pose la question parce que, comme on disait, bah, malheureusement, regardez, à l'image du match de ce soir, on prend 3-0 sur le troisième, Matataillé. Ils partent tous sur le but, on les passe.
Non, mais si, il faut s'inquiéter. Les gars, il faut s'inquiéter parce que déjà, on va y jouer en premier, on verra quel sera le classement. Non, mais on verra quel sera le classement à la fin de la journée. Il y a une série qui est désastreuse. Ça fait un moment que Bordeaux n'avance plus. Il y a eu l'élimination en Europa League qui, quand même, on disait, oh, c'est peut-être un mal pour un bien, mais moi, maintenant, quand ça va mal, tu t'en rappelles encore. Et surtout, ton équipe propose rien du tout. Tu vois, voilà. Rien du tout. Et t'as le discours de Stéphane Martin qui a été ambitieux, plein d'allants, etc. Et du coup, ça paraît un peu ridicule quand tu compares avec les résultats, avec les résultats d'équipe. Ouais.
Non, mais le président, c'est obligé. Mais par contre, je suis d'accord un petit peu avec
Lilian.
Lilian, dans le sens où, quoi qu'il se passe, même quand le stade était vide, les ultras, ils étaient toujours là du début jusqu'à la fin à chanter. Arrivé un certain temps, quand tu ne proposes rien du tout, tu ne défends pas, même j'ai même pas senti une agressivité. La preuve, je sais même pas si un joueur de Bordeaux a pris un carton jaune.
Octavio.
Voilà, c'est le seul.
Dès le début. Lignan, vous en voulez à qui aujourd'hui alors? C'est quoi, les joueurs, les dirigeants, l'entraîneur, tout le monde?
J'en veux un peu à Pau 3, la direction de ne pas prendre les bonnes décisions pour moi, Gourvennec de ne pas avoir de solution et aux joueurs de ne pas être motivés.
Ouais, mais c'est voilà. Ce qui demande des supporters des Girondins de Bordeaux, c'est que les joueurs donnent tout, soient motivés. Ça, c'est déjà la base et le minimum. Et ce soir, les Strasbourgeois, pourquoi ils en profitent? Parce qu'ils sentent, ah ben tiens, ça passe bien, premier but, on est serein, ils nous poussent pas, ils nous bousculent pas, il y a pas d'agressivité franchement devant notre but, donc ils en profitent.
Moi, j'aime beaucoup Gourvennec, mais je pense qu'il est quand même fautif sur ce qui se passe. Ça fait plusieurs matchs où on se rend compte qu'il a aucune idée.
Il est entraîneur, après c'est
visible,
mais bon.
C'est pas sur le physique. C'est que là, on voit depuis plusieurs matchs qu'il y a pas d'idée dans ses changements. Il est pas inspiré dans ses compositions d'équipe, il est pas inspiré.
Mais visiblement, c'est la manière non plus.
Dans la manière dont il met en place son équipe, t'as l'impression que l'équipe n'a pas d'idée. Et je pense quand même que la faute incombe quand même un petit peu à l'entraîneur.
Alors après, on vient d'écouter Thierry Loret qui l'exprimait. Il a pas tort dans son analyse, Thierry Loret. Strasbourg marque dès la deuxième minute avec ce but de Bauken.
Ah,
ça les flingue d'entrée, hein, les Bordelais aussi. Ton match, il est un peu.
T'as pas de caractère,
t'es dans une mauvaise spirale.
T'as
pas de caractère.
Mais à ce niveau-là, c'est pas parce que t'as pris un but d'entrée que ça et tout ça.
T'attends de te rattraper.
Sauf pour un promu. Oui, un promu qu'à domicile, il est déjà sous pression. Et dès le début, le pauvre, il se donne à fond et il prend un but.
Bordeaux,
déjà c'est dur. Mais là, Bordeaux, ils sont chez eux.
Non.
C'est pas parce que Strasbourg marque d'entrée qu'automatiquement le match est terminé.
C'est pas une excuse, ça.
Lilian?
Alors que si tu prends le match, le but à la fin, oui.
T'es là, Lilian?
Oui. Moi, ce que je veux dire, c'est que à Bordeaux, chez toi, quand tu t'appelles le Girondin de Bordeaux, t'as pas le droit de baisser les bras.
T'as l'impression qu'ils ont lâché après le but. T'as l'impression qu'ils ont lâché après le but, en fait.
Malheureusement.
Le symbole du match, c'est son carré qui rentre, il se prend un tampon, il concède le coup franc et il bute. C'est à l'image de son équipe. C'est la fébrilité incarnée.
Malheureusement. Moi, personnellement, je suis 600 bornes pour voir quelques matchs et je me rends compte
que. T'es d'où, Lilian?
Moi, j'habite en Bretagne, j'habite à Lorient.
Ah ouais?
Ok. Je viens voir les matchs et je vais vous dire aujourd'hui, je vous pose la question si je vais encore venir voir ne serait-ce qu'un match aujourd'hui.
T'as tous les 15 jours, tu fais les allers-retours?
Pas tous les 15 jours, mais ça m'arrive des fois de faire les.
T'es supporter des Girondins depuis combien de temps?
Depuis un petit moment déjà, mais.
Ah, Lilian, il vient, il fait la tournée des châteaux, c'est pour ça plutôt.
Non, mais ce que je veux dire, aussi. C'est que voilà, on en a marre. Voilà, c'est un constat, c'est...
Mais je le comprends.
Bon, Lilian, tu rentres ce soir, là, ou pas?
Non, là, ce soir, je reste à Bordeaux.
Bon, écoute, reste à Bordeaux, sois prudent. Tu fais partie, quoi, des ultramarines, c'est ça?
Oui.
Bah bravo pour ce que vous faites, en tout cas, pour vos engagements, votre engagement et tout. Non, mais au-delà de ça, c'est-à-dire...
Non, parce que
c'est un super groupe.
Je me souviens, parce que l'année du titre, ils nous ont énormément aidés.
Non, mais ils sont très inventifs, en plus, et puis ils sont très engagés aussi. Donc...
Non, ils ont toujours...
Bravo, et tu sais quoi, Lilian?
Oui.
On va t'offrir un livre, les 40 ans d'11 mondial. Voilà, c'est aux éditions Marabout, c'est un très beau livre.
D'accord.
Joli
cadeau. Ah, d'accord, merci.
Voilà, c'est pas d'accord, tu dis merci. Voilà, merci qui?
Merci RMC.
Merci Lilian, bonne soirée à toi.
Salut Lilian, bon courage.
Salut, ciao. Mais si on a parlé du défait de ce soir, voilà, du vaincu, parlons du vainqueur.
Ouais,
Strasbourg. Mathieu, supporter du Racing, nous a appelé au 32-16. Salut Mathieu.
Bah, salut les gars.
Salut Mathieu.
Ah bah ça va bien.
Notre ami Belfortin, Mathieu.
C'est ça.
Bon alors, t'es content là?
Ouais, super content. Un peu contrasté, je suis très content pour moi, mais triste de ce qui se passe, à Bordeaux. C'est dur de voir un club comme ça qui prend un virage de cette façon-là durant la saison, puis de voir la détresse qu'ils sont en train de traverser. Ben, c'est,
Je suis content, voilà, pour nous, mais c'est vrai que c'est dur de les voir dans cette situation et j'espère que c'est un club qui va vite se relever.
Oh, ce fair play, c'est beau, Mathieu.
Oh, là, c'est oui, pas, là, Mathieu. Focus, tu t'en fous, t'es content, c'est tout, arrête, arrête Mathieu.
Non, parle-nous, par contre, parle-nous de cette équipe de Strasbourg, s'il te plaît.
Ben, cette équipe de Strasbourg.
C'est plus pour l'an commun, l'autre, maintenant, là. Si tu veux, je me casse, hein. Ok.
Cette équipe de Strasbourg, moi, je voudrais mettre en avant, bon, alors, on parle beaucoup des joueurs, hein, Dimitri Liénard, mais moi, je voudrais mettre en avant Monsieur Thierry Loret, qui a été un, donc pour ceux qui ont suivi la montée nationale, hein, on avait Jackie Duguay-Pérou,
ah oui,
qui s'est retiré, je pense, au bon moment, qui arrivait au bout de sa mission, de ce qu'il était capable de donner pour le club. On est remonté en Ligue 2, il a fallu faire un choix de placer un entraîneur qui allait prendre la suite des événements. Marc Keller a choisi Thierry Loret. Je pense que c'était un choix qui était très intelligent. Thierry Loret est un homme qui travaille bien ces dernières années. Il avait fait des choses très très bonnes avec Ajaccio, GFCO. Et voilà, je voudrais le mettre en avant et qu'on, voilà, si écoute ces mots, on est vraiment, enfin moi je fais partie des gens très très fiers du travail qu'il fournit pour le club. On le sent très très investi comme entraîneur, très proche de ses joueurs. Je pense qu'il y est pour beaucoup dans la progression de certains joueurs qui ont dû s'adapter du national à la Ligue 2 et à la Ligue 1, parce qu'il transmet une hargne et un investissement à ses joueurs. Il est tellement lui-même investi que les joueurs peuvent que lui rendre en retour. Et je trouve que son travail est formidable et je suis content pour lui que ça paye aujourd'hui parce que c'est un bel homme, c'est un superbe entraîneur.
Il a beaucoup de caractère. Voilà.
Mmh. Ouais, beaucoup de caractère. C'est fantastique.
Moi, j'ai eu la chance de le connaître en national à l'époque. Il avait fait monter le Gazélec, justement, parce que tu parlais. Il a vraiment une particularité et on le voit dans ses confs de presse. Il y a des mecs, c'est des showman hein, dans les confs de presse. Voilà, ils sont très extravertis. Il est vraiment entier.
Il adore ce qu'il fait. Il va droit au but, ça lui plaît un peu.
Ouais, ouais.
Mais pour en revenir à Strasbourg, faut d'abord mettre les choses comme il faut. Dans le sens où on a la chance, là, à Strasbourg, d'avoir un Alsacien, un ancien joueur professionnel qui plus est président. Et qui est passé aussi un petit peu par le management et un petit peu des agents, qui est Marc Keller, qui a fait un boulot exceptionnel. Et c'est lui qui choisit Thierry Loret. Donc, les dirigeants, le choix des dirigeants est quelque chose d'important. Et c'est ce qu'a bien fait.
Mais Mathieu, tu faisais allusion à Jackie Duguay-Pérou quand il va le rechercher pour faire monter l'équipe également à l'époque. Il n'y avait rien d'évident hein, quand il va chercher Jackie Duguay-Pérou. Il va le sortir de la retraite pour faire monter le club en Ligue 2 aussi. Hein.
Ouais, mais pareil, je pense que c'est encore du flair, comme dit Ali Benarbia. Du flair de Marc Keller. Il faut quand même se souvenir de comment le club a été sauvé. Je crois que dans les grandes lignes, à l'époque.
Dernier moment. Hein.
Quand, ouais, voilà, c'était au milieu de la nuit. Marc Keller a réuni des associés à l'époque. Il a dû présenter un dossier à la DNGC. Si je dis pas de bêtises, c'est le lendemain ou le surlendemain. Enfin, ça a dû aller très vite. Puis derrière, il a fallu enchaîner rapidement. Donc il y a son frère, le frère Marc Keller, François Keller, qui avait pris le club. Mm-hmm. Ensuite, il allait chercher Jackie Duguay-Pérou. Rien n'était écrit à l'avance, mais je pense que voilà, Marc Keller est un homme qui est réfléchi, qui a une grosse expérience dans le milieu du football, et voilà, il a fait des choix qui sont gagnants. Il y a même des choix qui sont gagnants au niveau du recrutement, au niveau de ce qui se passe d'année en année. Et voilà, il y a vraiment un travail de sape qui est fait. Et je pense que pour l'instant, on est sur la bonne dynamique pour réinstaller ce club en Ligue 1, parce que je pense que c'est sa place, hein, sans vouloir d'objection à d'autres clubs. Hein. Tout le monde a sa place sportivement, mais je pense que le Racing Club de Strasbourg, en Alsace, ça respire le football. Mmh. Il y a un public, mais on en parle suffisamment fantastique. Ah, oui. Et je pense que c'est un club qui a sa place pour jouer même plus haut, plus tard, dans l'autre tableau français. Quoi.
Déjà qu'il reste en Ligue 1, ça serait déjà une bonne chose.
C'est formidable.
À l'image d'un club comme Lens. Et puis, je pense que le choix de Thierry Loret, il veut surtout pas faire la même saison qu'il avait fait avec le Gazélec. Donc il connaît tous les ingrédients pour pouvoir. Ça fait, mais il connaît tous les ingrédients pour pouvoir se maintenir parce que je pense qu'il a dû se dire par là j'ai fait des erreurs, je ne veux pas faire la même chose. Donc il lâche pas son effectif, il lâche pas ses joueurs.
Merci
il
a pris Mathieu en tout cas.
Merci à vous les gars.
Salut Mathieu,
à bientôt mon gars. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à vous les gars.
Salut mec.
Bonne soirée Mathieu. Merci de nous avoir appelé messieurs dans quelques instants. On va se lancer sur les affiches de demain. Il y a notamment Paris Saint-Germain Lille. On va évoquer le Paris Saint-Germain. Tu parlais d'Unai Emery dans tes trois points tout à l'heure. Ouais. On va y revenir. Unai Emery qui estime que le début de saison du Paris Saint-Germain est très positif. D'accord, pas d'accord. On vous attend au 32-16. On va évoquer également l'Italie avec Simone Rovera. Demain il y a une grosse affiche comptant pour la 16e journée de Serie A. La Juve face à l'Inter. Et vous le savez, l'Inter. C'est le club de cœur de Simone Rovera.
Oh là, faut pas le dire. Premier du championnat.
Faut pas le dire. Ah pardon Simone. Faut pas le dire. Vous le voyez pas derrière la caméra.
C'est normal.
Et vous le voyez pas surtout parce que vous écoutez peut-être à la radio.
Je comprends pourquoi maintenant l'Italie ils ont des problèmes, l'équipe de la finale.
J'ai en train de flinguer ta carrière mon gros.
Coupe du monde.
Mon gros. C'est vrai qu'il a pris mais de là à dire comme ça. Justin Gourvennec est en ce moment même en conférence de presse, on va l'écouter.
Les Strasbourgeois ont marché sur l'eau du début à la fin. Ils auraient même pu aggraver le score parce qu'ils ont, ils nous ont transpercés, ils ont eu des contres de folie, ils ont des jambes pour ça, sur leurs trois attaquants. Et nous, on a été fébriles. Et quand vous avez une équipe qui est très en confiance et qui tente les choses sans se poser de questions, une équipe qui est sur le reculoir et qui est fragile, et ben ça crée des différences. Après, on n'a pas... On aurait pu jouer 3 heures, on n'aurait pas marqué. Il y a eu plein de situations, des ballons qu'on a ratés, des ballons qui passent à côté du poteau, le gardien qui la sort du bout des doigts. Voilà, c'était une soirée totalement sans, comme ça arrive parfois. Et voilà, c'était ce soir et c'était pas le bon moment.
Allez, Jocelyn Gourvennec en direct en conférence de presse.
Autant sur nos matchs à l'extérieur, les récents matchs à l'extérieur, on faisait pas ce qu'il fallait pour rester plus solide et prendre des points, autant sur nos prestations à domicile et notre championnat. À domicile, on a toujours répondu présent. En 2017, on a, à part les deux matchs contre Paris, Coupe de la Ligue et championnat, où Paris était très au-dessus, on n'a pas raté de match à domicile en 2017. On a été battu par Monaco il n'y a pas très longtemps, mais en étant cohérent et en faisant quelques bêtises contre une très bonne équipe de Monaco. Mais on n'a pas raté nos matchs. Ce soir, c'est le premier match qu'on rate, et on le rate au mauvais moment.
Et Bordeaux s'est incliné 3-0 à domicile face à Strasbourg. Et
sur le match, oui, après, pas sur la situation, parce qu'on a déjà vu les joueurs qui ont du répondant. On l'a montré il y a 10 jours contre Saint-Etienne. Et la soirée de Saint-Etienne, il y a 10 jours, et il n'y a pas plus de 10 jours, c'était une soirée parfaite avec de l'efficacité, du jeu, de la cohérence et de la solidité défensive. Vous marquez 3 fois et vous n'en encaissez pas. Bah, ce soir, ça a été totalement l'inverse, où il n'y a rien qu'à souris. Et voilà, c'est des soirées sans. On en connaît dans une carrière. J'en ai déjà connu en tant que joueur.
Il est pas lucide.
Tout le monde en connaît des soirées sans où ça sourit pas pour les uns et tout sourit pour les autres. Mais simplement dans un moment comme ça, et ben il faut faire le dos rond.
Il a tort.
Perdre. On n'aime pas perdre. Mais quand on perd comme ce soir, faut perdre avec dignité.
Non.
Il n'y a pas de 6 solutions quand c'est comme ça. On est tous très déçus, on voulait faire un match plein, on n'a pas réussi, on est passé à côté de notre sujet. Mais quand c'est comme ça, il faut rester digne, il faut travailler, il faut faire preuve d'abnégation et il faut faire preuve de courage, il n'y a que ça qui compte.
C'est pas juste un match qui est loupé là.
Allez, Justin Gourvennec en direct en conférence de presse.
C'est les vases communicants sur le match. On a connu le scénario inverse sur notre match de Saint-Etienne, pardon, où c'est nous qui prenons l'ascendant et puis Saint-Etienne qui subit. Voilà, ils ont subi du début à la fin et on est passé. Là, c'était exactement l'inverse. Il y avait de la fougue en face et on n'a pas su réussir. Il fallait revenir à 2-1. Quand c'est comme ça, quand vous êtes mené 2-0, faut revenir à 2-1. Faut mettre ce petit but qui entretient l'espoir et qui booste tout le monde. On n'a pas su le faire.
Voilà, c'était l'analyse de Jocelyn Gourvennec. Bordeaux qui s'est incliné à domicile 3-0 face à Strasbourg.
C'est pas juste la malchance,
Nico. Hein.
C'est pas juste la malchance. Quand tu enchaînes les performances indigentes et indigestes comme ça, c'est pas juste ça, quoi.
Indigentes et indigestes.
Hein. Non, il nous a pas parlé du fond du problème.
C'est ça, voilà. C'est le fond de jeu.
Il a dit, tu peux passer au travers, mais être agressif, ça peut arriver.
Et là, ils étaient noyés.
Il y a aucune agressivité. Bankem,
deuxième,
Guénard,
38e, Terrier, 64e. Ce sont les trois buteurs strasbourgeois de ce soir. Strasbourg qui passe devant Bordeaux au classement. Ça reste dans le ventre mou. Strasbourg qui est du coup 11e. Dans quelques instants, on va revenir sur la saison du Paris Saint-Germain. Très positive selon Unai Emery. D'accord, pas d'accord, on se retrouve dans quelques instants avec vous au 32-16.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Et Ali Benarbia et Jonathan McCarty. Et Simone Rovera nous a rejoint également. Ciao Simone, ça va?
Ciao, buonasera, bonsoir.
Ça va, Simone?
Très bien.
Ça roule ou quoi? Grosse affiche de série à demain.
C'est déjà chaud là. Fait chaud.
L'Inter qui est leader, ils ont combien de points d'avance là, l'Inter?
Sur la Juve 2, mais insonnable.
T'es comment? T'es confiant ou pas?
Je suis confiant.
C'est vrai, tu penses que l'Inter va gagner donc?
Je suis confiant que ce sera un grand match. Qu'il y aura du spectacle, il y aura des buts. Tactiquement, ça va être un super match.
Match nul, ça arrange Napoli.
Match nul arrange. Je pense surtout l'Inter.
Parce que c'est à la Juve.
Parce qu'après, au match retour, à la phase retour, tu joues à domicile face à la Juve, à Naples et à la Roma. à domicile face à la Fiorentina. Pas si simple.
Non, là, c'est compliqué. Pas si, même si la Fio cette année, c'est bof. Bon, on y revient tout à l'heure, dans quelques instants. Okay. Avant ça, demain, à 17h, la suite de la 17e journée de Ligue 1. Je vous rappelle que ce soir, Strasbourg s'est imposé 3-0 à Bordeaux. Et Strasbourg passe devant Bordeaux de au classement. Bauken, voilà. Liénard. Un magnifique de Dimitri Liénard. Et Martin Terrier, bien entendu. Sorti demain, à 17h, il y a PSG Lille. Alors, le PSG, vous le savez, qui reste sur deux défaites, hein, face au Bayern et à Strasbourg, justement. Alors, demain, il n'y aura pas Neymar qui est suspendu. Il n'y aura pas Thiago Silva qui est blessé. Mota et Kurzawa, eux aussi, sont pas là. Unai Emery est revenu sur cette défaite 3-1 face au Bayern Munich. Et pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain, vous allez l'écouter, le début de saison de son équipe, plutôt la saison de son équipe, reste très très bonne.
Déceptionnel, il a passé à très bien. Et aussi, comme je l'ai dit, exceptionnel. On a gagné 19, des matchs nuls et des défaites. Et c'est vrai, les deux défaites, c'est les dernières. Mais et c'est le moment pour faire l'analyse. C'est le moment pour dire, bah, aujourd'hui, n'est pas très bien. Mais après, il y a le passé un jour, deux jours, et il fait une analyse globale. C'est pour ça que l'analyse globale, c'est positif.
Voilà, l'analyse globale, elle est positive, donc, pour Unai Emery. D'accord, pas d'accord, on vous attend, supporter du Paris Saint-Germain au 32-16. Ali, est-ce que la saison du Paris Saint-Germain, selon toi, est très bonne? Elle est positive, comme le dit Unai Emery.
C'est assez bizarre d'avoir quelqu'un qui parle en français avec la
traduction
française.
Arrêtez, commencez pas avec ça, c'est sous-titré pour ceux qui sont sur BFM Sport. Mais non, c'est vrai qu'il y a quand même du mal avec...
Mais un peu de temps... Un peu de temps, la progression qu'il a eu du français est exceptionnelle. Alors qu'on comprend quand même ce qu'il dit. On comprend ce qu'il dit, on n'a pas besoin
de... Il n'a pas fait beaucoup de progrès par rapport à l'année dernière. Non, tu vois, quand il dit, on a fait des bits. Oui, on a fait des bits.
Non, mais par contre, Jardy.
C'est qu'Arthur Georges disait tout le temps ça. Il parlait bien français.
Jardy, mais meilleur que lui parce qu'il a plus d'années.
Il a beaucoup progressé cette saison.
Il a chaud moins la tête maintenant.
Non, mais sans déconner, cette saison, il a beaucoup progressé.
Je vais pas manger les chiffres.
Sur ce que dit Emery, je lui donne entièrement raison dans le sens où.
C'est moi, j'ai des bits.
Il vole à la fois le Champions, il survole la Champions League dans tous les matchs de poule. Il survole le championnat facilement, pratiquement tout le temps. Donc tout est positif. Maintenant, je mets pas deux défaites d'affilée dans le sens où je sépare la Champions League et le championnat. Et là, je me rends compte que tout se passe très bien maintenant. Je le redis encore une fois, un grand club, puisque le PSG veut être un grand club, il se doit d'être motivé à 200% à chaque match contre les petits et les grands clubs. Et je pense que c'est ce qui leur manque à ce niveau-là.
Oh, mais...
Tu dois avoir beaucoup plus.
Ils ont qu'une défaite à vie en championnat.
Non, mais
ils ont joué contre des
petits. Je parle pas de la défaite. Je parle de vouloir toujours.
Bah, ils ont 13 victoires en 16 matchs en Ligue 1.
C'est-à-dire que de vouloir toujours gagner.
Il faut être lucide.
C'est ce qui fait que tu peux aller jusqu'au bout.
Il faut être lucide. Leur parcours en championnat est exceptionnel. Ce qu'ils ont montré en Ligue 1, c'est exceptionnel. Après, en Ligue des Champions.
Pareil.
C'est bien.
Ils ont fait
mais c'est très bien. Mais est-ce qu'on s'attendait à mieux? Moi, forcément, franchement, quand je vois l'adversité qu'ils rencontrent en Ligue 1, quand je vois la faible intensité qu'ils rencontrent quand ils ont des oppositions dans le championnat domestique, ça m'étonne pas que quand une équipe de niveau européen leur rentre dans l'art, ça répond.
Attends, ils leur rentrent dans l'art, ils gagnent le match aller 3-0, ils ont une défaite, ils sont premier groupe.
Le contexte, bordel.
Non, mais moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit.
Le Bayern en crise.
Mais
ça n'a rien à voir. Mais c'est très bien. Non, mais qu'on soit d'accord, c'est très bien ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions. C'est très très bien.
Mais de là à très bien, c'est juste se qualifier pour les matchs.
On est d'accord, c'est là où tu couches. Écoute-moi, t'écoutes pas. On est d'accord. Ce que je veux dire par là. On est d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, l'analyse que tu as fait dans tes trois points, c'est la première analyse intelligente que j'ai entendue de la saison du PSG. Ce que t'as dit, t'as tout dit quand t'as fait tes trois points. C'est-à-dire que la saison, elle est extraordinaire, mais que le bilan en Ligue des Champions, il est extraordinaire, mais que t'as cette défaite contre le Bayern qui ternit un petit peu le bilan. Mais pourquoi il le ternit? C'est parce que les gens ont cru que le PSG, en achetant Neymar, allait rouler sur l'Europe. Mais loin de là. Mais on est d'accord.
Oui, mais Jonathan, tu penses.
Donc du coup, moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est très bien, mais c'est pas, voilà.
Non, mais Jonathan, avant le match, tu pensais vraiment que le PSG allait battre le Bayern au Bayern?
Mais bien sûr que non.
Moi non plus.
Parce qu'on est lucide. Mais le problème, c'est
bien
que. Non, mais écoute-moi bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu un engouement général. Pas que des spécialistes du football, mais un engouement général global. Même des gens qui s'intéressent pas au foot en règle générale, qui disaient oui, il y a Neymar et tout. Le PSG va gagner la Ligue des Champions, mais c'est plus compliqué que ça. Donc du coup, oui, la saison du PSG, elle est exceptionnelle.
Juste pour recontextualiser quand même, parce que le Bayern en crise, le Bayern a été en crise notamment avec Ancelotti. Le Bayern, c'est une défaite sur les 15 derniers matchs.
Voilà.
Depuis le début de saison, le Bayern, c'est 23 matchs, autant que le PSG.
C'est pas la même.
16 victoires, 3 nuls. Le PSG,
c'est
ils ont deux défaites.
Équipe. Non, c'est pas la même équipe.
Ah, d'accord.
Non, mais par contre, après, le contexte veut que. C'est pas le PSG qui devait faire ce qu'il fallait, c'était le Bayern. Et que, quoi qu'il a vu, même s'ils ont, le Bayern a battu le PSG, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait dans le sens où il fallait vraiment changer la tendance pour être premier. Parce que, on va voir encore dans le choix des huitièmes, si le Bayern se retrouve face à un gros, même s'ils sont prêts, ça va être beaucoup plus dur.
Ok, Ali, ok, à 100%. Sauf que, Je pense que si t'es intelligent dans ton management de ce groupe-là, dans ton management de l'équipe, tu dois arriver à motiver tes joueurs pour qu'ils soient à 100% dans le match contre le Bayern.
Emery les a motivés.
Le problème du match, c'est
mais Emery les a motivés. Ils ont cassé après.
Je pense juste que le match contre le Bayern, il est juste révélateur du niveau du PSG au niveau européen.
Ah, je suis pas sûr. Après, c'est
des fois, c'est pourquoi. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont exceptionnels
face au Bayern, ce qui est un peu contrariant et ce qui peut aller un peu instaurer le doute chez les Parisiens. Bah, c'est la façon dont ça s'est passé. Tu sais pas le fait que tu perds 3-1, tu peux perdre 3-1 et faire ton match. Ah là, ils ont pas vraiment fait leur match, on a pas reconnu le PSG.
C'est pourquoi non,
mais
j'ai pas reconnu,
je sais pas, moi j'ai pas de réponse.
Parce que mais moi je te
si,
dis
moi
pourquoi,
je l'ai dans
vas-y,
le sens.
Vas-y, mais moi je te le dis.
Ben, tu as bien vu, il y avait pas une cohésion, un équilibre dans cette équipe. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pas en mode de résultat. Malheureusement.
Pour eux, ils étaient en roue libre déjà un peu.
Non, ben non, moi je suis pas d'accord.
Tu sais, non, je vais te dire.
C'est inconsciemment, je veux dire.
Je suis joueur. Je suis un joueur du PSG à ce moment-là. Ça va pas, qu'est-ce que je fais? Ah, il va falloir qu'on essaie de marquer. Mais cette équipe du PSG, à chaque fois qu'elle a accéléré, elle s'est créée des occasions, ils auraient pu marquer des buts. Oui ou non, Jonathan?
Oui, ça, non, je suis pas forcément d'accord parce qu'ils ont pas forcément.
Ah, tu trouves pas.
Pas forcément. Moi, je vais te dire.
Donc on a eu une défense de Bayern qui était sûre d'elle, costaud.
Non, mais c'était pas non plus la défense.
Ils auraient pu la remettre encore deux ou trois buts.
Non, je vais te dire quels sont les deux points qui ont posé. Le premier point, et c'est des points qui sont des symptômes récurrents de cette équipe-là, c'est que la défense centrale n'est pas au niveau. Thiago Silva n'est pas au niveau d'une équipe qui doit gagner la Ligue des Champions, mais ça on le sait depuis longtemps.
Donc,
mais
ça a été flagrant sur
ce match-là. Je pense que oui.
Non, je pense que oui.
Il y a deux buts qui sont enlevés et là, il ne se comporte pas comme un patron. Et le deuxième point, c'est que ce milieu de terrain, aussi attrayant soit-il, avec Rabiot, Draxler et Verratti, c'est pas un niveau que tu peux mettre quand tu dois avoir des batailles européennes. Parce et ça, c'est deux points qu'on savait avant le match, qui ont été prouvés sur ce match contre une adversité comme ça.
Non, c'est pas ça.
C'est pas solide. Ça n'a pas de caractère.
C'est pas que c'est pas solide.
Ça manque de caractère.
Voilà.
C'est pas méchant.
Pourquoi c'est pas méchant? Parce que oublie déjà, est-ce que tu as vu Rabiot rentrer dans un joueur dans ce match-là?
Non.
Alors que Rabiot est costaud physiquement.
Bien sûr.
Verratti évitait même les coups. Pourquoi? On le sait, nous.
Fois,
Non. Verratti n'évite pas les coups.
Mais si, là, il a évité les coups. Avec les faibles, les
faibles avec les poids. Draxler, je sais même pas s'il a touché un joueur du Bayern.
Ça c'est vrai, ça on est d'accord.
Ouais, mais c'est ses potes, alors faut pas.
Je suis désolé, mais la défense centrale, on sait depuis un moment qu'il
n'y a pas
Marquinhos
qui est plein.
Mais t'as surtout le manque de caractère.
Mais on verra quand ça sera les huitièmes de finale. Jonathan, t'auras pas la même équipe.
Je vais m'énerver là. Vas-y, sois méchant, toi, comme les milieux de terrain de la Juve. Non, de l'Inter d'ailleurs. Thibaut nous a appelé au 32-16. Thibaut qui nous appelle des Yvelines. Tu nous appelles d'où d'ailleurs, Thibaut?
Tu nous appelles de Poissy.
Oh, sans décoller, c'est la vague chulée, mon gars.
J'ai pas compris.
C'est la vague chulée.
Ils s'en foutent.
Je suis né à Poissy, je suis pissiaqué de naissance.
Ah oui, non, je suis pas pissiaqué de naissance, mais j'habite à Poissy.
Oui, mais t'as rien compris ce que j'ai dit, mais c'est pas grave.
Non, j'ai pas du tout compris.
Donne-nous ton adresse.
À Poissy, dans le centre-ville.
Oh, génial, putain.
Il t'a dit qu'il était né à Poissy.
Le monsieur te dit.
Ah, il est né, il
mais
est
ouais,
né à Poissy.
Putain, ils n'ont pas compris, Thibaut. Oh,
et les jeunes de Poissy.
T'es dans l'after, je suis né à Poissy. Je suis
pas venu.
Je suis pissiaké de naissance.
D'accord. Viens nous voir.
Bah, je suis à côté, mon pote. Moi, j'habite Orgeval.
Il pisse à côté.
Allez, viens nous voir au Batignolles. Viens ce soir au Batignolles.
Allez, c'est bon. Enfin, non, peut-être pas ce soir. On dirait que je vais me faire engueuler par ma femme. Je vais rentrer tard ce soir. Mais.
Fais comme les autres soirs. Dis-lui que t'es retourné au bureau.
Bah, tu sais qu'on fait la
merde. Je le fais à chaque fois, tu nous l'as dit.
Jonathan, il me dit, elle peut venir.
Bon, moi, Thibaut, c'est pas pour ça que tu nous appelles. Thibaut, bien que ce soit une très bonne idée.
Vous avez à peu près tout dit maintenant. Je veux revenir sur quelques points que vous n'avez pas encore évoqués. Alors, le premier point, c'est sur le match du Bayern. J'ai vu beaucoup de parallèles par rapport à la faiblesse mentale du PSG sur ce match-là qu'on avait vu face à Barcelone. Moi, je suis pas trop d'accord. Je trouve que le Paris Saint-Germain, face au Bayern, il entame plutôt son match avec confiance. Après, ils prennent ce premier but qui fait replonger les joueurs mentalement. Et dans ces matchs-là, justement, dans les moments de doute comme ça, on attend des joueurs qui ont été recrutés, notamment la superstar Neymar.
Pas que lui, Thibaut.
Pas que lui, non. Mais il y a Daniel Alves,
qui les attend là.
Oui, on les attend. Thiago Silva, on connaît déjà ses faiblesses mentales. Mais par exemple, on a recruté Alves pour avoir un vrai leader. On a recruté Neymar pour avoir un vrai leader. Et dans ce match-là, moi, ce qui m'embête le plus, c'est que je vois plus Mbappé, je vois plus Rabiot que Neymar. Et ça me pose un souci. Alors, est-ce que c'est parce que Neymar se dit c'est le dernier match, le plus important, c'est de finir premier de la poule,
Thibaut, non.
Ou est-ce que Neymar n'est... Est-ce qu'il y a un...
Thibaut.
Moi, c'est une question que je me pose.
Ouais. C'est le premier match de haut niveau qui joue.
On va dire ce qu'il va nous dire, Thibaut.
Non, mais Neymar, il a l'habitude de jouer ses matchs à pression. C'est-à-dire que c'est le leader de du Brésil. Donc, il a l'habitude d'être un leader. Mais est-ce que. Je pense que Neymar a surtout besoin d'avoir un collectif très, très au point. Et on l'a pas, ce collectif encore très, très au point face à ces grosses équipes. Et ce qui va, la question qui se pose, il y a aussi la question de la concurrence. Emery parle beaucoup de la concurrence. Et on se rend compte que ce Paris Saint-Germain-là, contrairement au Bayern qui joue le match contre le Bayern joue avec Rudy, qui est le remplaçant de Thiago Alcantara. Robben n'est pas là, Müller est sur le banc, et c'est un très très bon Bayern.
Tolisso n'est pas titulaire non plus, hein.
Boateng n'est pas là. C'est un très très gros Bayern. Ouais, et au Paris Saint-Germain, on se rend compte qu'on a un 11.
Et que t'as pas grand monde aussi sur le banc, attention.
On a personne sur le banc. Et ça va poser un vrai problème. C'est-à-dire que si toute la saison, les équipes adverses connaissent déjà nos formules, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va marcher. Neymar repique dans l'axe, Draxler s'excentre côté gauche, Mbappé prend le couloir dès que Neymar brille. À un moment donné, quand on arrive face à des grosses équipes, elles ont compris. Elles comprennent. Ben, écoute, on ferme l'axe, Neymar, il peut pas décrocher, donc, forcément, Mbappé est moins alimenté, Cavani est moins alimenté. Et le Bayern l'a très bien fait. Le Bayern a fermé les espaces, ils se sont mis en bloc très très bas. Et Neymar, il a été obligé de jouer tout le match côté gauche. Et on n'a pas de réponse tactique à ce problème-là. Et c'est là qu'on attend Unai Emery, qui est un tacticien. Mais moi, je pense que Unai Emery n'a pas la possibilité de faire autre chose dans la mesure où il n'a pas de banc. Il a plus les joueurs
il
sur le banc.
Il pourrait avoir un banc.
Il pourrait l'avoir, sauf que Pastore veut pas l'avoir.
C'est ta faute.
Parce qu'il pourrait l'avoir. De cette route.
Parce qu'il a perdu des joueurs.
Bon, on vous mettra pas d'accord. Il
a perdu des joueurs. Di Maria, il l'a perdu. Pastore, il l'a perdu.
Lucenzo,
il a perdu. Il a passé ses journées. Il les a perdus, ces joueurs.
À tous les pissiaquais, bien entendu.
Si, il les a perdus.
Mais si on se retrouve dans quelques instants, on va filer en Italie.
Il les a fait jamais jouer.
Vous êtes dissipé, ça. Je vais m'énerver.
Il les fait jouer, mais ils sont pas bons.
Parce que c'est un thème.
Là, ils ont la charge de jouer.
Non, messieurs, vous avez beaucoup d'adrénaline. En vous. Et justement, grâce à RMC, on vous offre l'occasion de gagner une expérience incroyable, votre coffret dose d'adrénaline. Vous pourrez vous essayer à la chute libre, à la conduite sur circuit ou encore au saut en parachute. Pour tenter votre chance, il suffit d'envoyer RMC par SMS au 732-16. À vous de jouer et bonne chance. L'after se poursuit dans quelques instants.
RMC, le super football show. L'after foot, Nicolas Villas.
Et Annie Bénardière et Jonathan Maccardi et Simone Rovera qui est avec nous parce qu'on va filer en Italie dans quelques instants. On vous rappelle que Strasbourg s'est imposé 3-0 ce soir sur la pelouse de Bordeaux. C'était le match d'ouverture de la 17e journée de Ligue 1. Ça se poursuivra demain sur RMC.
Marseille,
bien entendu. Mais maintenant on part en Italie. Demain il y a la 16e journée de Serie A qui débute, Simone Rovera. Juve Inter, l'Inter qui est leader avec 39 points. Ils ont 2 points d'avance sur la Juve.
Ils ont 2 points d'avance sur la Juve. Un point sur Naples. D'accord. Deux sur la Juve.
Voilà.
C'est une chose.
5 sur la Roma qui est quatrième.
5 sur Roma, mais qui la Roma quand même doit récupérer un match. La Lazio doit récupérer un match.
Moins, ouais.
Ça fait un championnat italien très très intéressant.
Ah oui, ça change.
Et ça change. Mais ça change parce que la Juve, c'est sûr qu'il y a un peu moins bien que la saison dernière, mais il y a une vraie progression derrière. Quelques chiffres pour vous dire, l'Inter se trouve là-bas. Elle a 18 points en plus que la saison dernière.
Ah ouais,
l'Inter. Après 15 journées.
Ah voilà. L'année dernière, c'était une catastrophe.
C'était une catastrophe, mais t'as 18 points en plus. Hein.
C'est problématique à l'Inter depuis pas mal d'années quand même.
Bah, il y a la saison 2015-2016, en ce moment de la saison, on était quand même en tête. Il y a 2 ans, donc ils s'étaient classifiés 4e. Les débuts de la saison pour l'Inter, c'était on arrive 4e, on a gagné notre Ligue des Champions. Il faut se rappeler que cette année, pour l'Italie, il y a la 4 places qui qualifient. Les premières 4 places sont qualifiées pour la Ligue des Champions. Ouais. Et donc, l'Inter est parti pour ça. Après. Les mérites numéro 1, c'est celui des Spalletti qui est arrivé, qui connaît les championnats, qui est quelqu'un de très fort au niveau mental pour faire progresser les joueurs, pour le faire donner confiance. C'est lui qui a été chambré par Sarri cette année en disant c'est les ministres de la défense parce que c'est quelqu'un qui cherche à jouer d'une façon. La première chose, c'est pas prendre le but. Ouais. Et après, il avance. Mais il fait progresser cette équipe. Il y a des joueurs qui en retrouvent. Je sais pas si vous souvenez Santon, qui a été parfois titulaire avec Mourinho. Là, il revient, il est titulaire depuis 3 matchs. Il va être titulaire face à la Juve.
C'est toujours là-bas, lui?
Oui. Bah après être parti à Newcastle, revenu, ah oui. Il a jamais eu de la chance. Mais c'est quelqu'un qui arrive à retrouver, même à encadrer certains joueurs qui n'avaient pas la force pour s'imposer comme titulaire à l'Inter. Et l'Inter, c'est un de ces clubs où c'est très compliqué parce qu'il y a des publics qui te suivent tout de suite. On considère.
Mais qui est favori pour le match de demain alors?
La Juve, parce qu'elle a gagné à Naples vendredi.
Et qu'elle est à domicile.
Elle revient très fort. Higuain qui revient très fort. Il y a un seul doute, et ça pourrait quand même changer un peu le match. Dybala n'est pas au top. Peut-être on a vu les compos. Je sais pas si on a vu les compos sur BFM Sport, mais.
Oui, on l'a vu.
Il y a des absents chez la Juve. Bouffon. Il n'est pas là, chez Szczęsny qui est titulaire. Pjanic n'est pas au top, mais va jouer. Dybala, il s'est entraîné mal cette semaine, mais il devrait être titulaire, sauf s'il y a un reshoot des mains dans les dernières...
Et Barzagli, il est où?
Barzagli, lui aussi, n'était pas au 100%, mais surtout Benatia a fait des bons matchs dans les dernières semaines.
En ce moment, il est en train de revenir, Benatia.
Il traverse une bonne phase, hein, quand même, hein, Mehdi Benatia. Il est bien Maroc pour le mondial et il fait une belle saison.
Et là, il joue beaucoup.
Il revient bien. Et si son début de saison, la semaine dernière, a été plutôt catastrophique, oui, c'est-à-dire dans plusieurs matchs, il n'était pas au niveau. Cette année, ça revient. Après, il y a aussi un peu plus de confiance. Bonucci est parti, donc lui, quand même, il monte d'une position dans la hiérarchie des défenseurs. Et c'est vrai que demain, on l'attend comme titulaire devant Barzagli. Donc oui, ça peut être intéressant. Ça peut être un test sûr pour lui, parce qu'il y a en face Mauro Icardi. On les présente beaucoup en Italie, c'est choc. Aujourd'hui, la une du Tutto Sport, de la Gazzetta, c'était Icardi face à Higuain. On se contente un peu d'avoir les buteurs numéro 9 de l'Argentine, comme les Italiens sont un peu
bombeurs.
Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce duel là aussi. Ouais. C'est vrai. Duel des deux Argentins, les deux buteurs argentins.
Peut-être pour
et les deux ne jouent pas. Ouais, c'est dingue ça.
Par contre, moi, mon préféré, je te le dis, Simone, c'est Perisic.
Alors,
j'adore ce joueur.
Perisic aujourd'hui, c'est le joueur qui va plus vite. En Serie A, c'est lui qui a pris la place, on peut dire, des salades entre celui qui casse les lignes avec sa vitesse. Il a eu lui aussi une progression incroyable. Ouais, c'est un joueur qui est constant, qui fait des appels, qui fait des centres. Oui, lui et Brozovic. Depuis deux ans, Perisic, c'est celui qui fait plus passe pour Icardi, mais c'est-à-dire la liaison Perisic-Icardi, c'est la meilleure de Serie A. C'est-à-dire,
c'est des joueurs qui se trouvent le plus, c'est ça?
C'est des joueurs qui se trouvent le plus. Donc, c'est vraiment, c'est une Inter qui, devant, à mon avis, a pas beaucoup à envier à la Juve. Parce que Icardi, Higuain, à mon avis, c'est le même niveau. Perisic, Mandzukic, c'est différent, mais quand même, c'est des tours très haut niveau. C'est vrai qu'il y a Dybala qui change les choses, mais Dybala, c'est dans une période plutôt négative. Après avoir cartonné en début de saison, c'est une période qui va moins bien. Et s'il est sur le banc, demain, peut-être que c'est pas la condition physique, mais aussi parce qu'il n'est pas vraiment dans son meilleur moment.
Merci Simone. Le match sera donc demain entre la Juve et l'Inter. C'est bientôt Noël et avec RMC, on vous gâte, hein, plein de cadeaux high-tech à vous offrir. Des smartphones, des ordinateurs portables, des tablettes, des hoverboards, je sais même pas ce que c'est les mecs. Pour tenter votre chance, il suffit d'envoyer Noël par SMS au 732-16 ou d'appuyer sur la touche 5 en appelant justement le 32-16. On est avec Johan. Salut Johan.
Salut les gars, salut
la sœur. Et Ayoub également est avec nous, salut Ayoub.
Salut Nico, bonsoir à tous.
Salut la bande de Vénère, les mecs, vous allez gagner. Alors vous allez gagner, d'ailleurs quelqu'un de chez nous va vous faire gagner un cadeau. Johan, qui veux-tu? Tu veux la boule de qui? Chaud cette phrase.
N'importe quel animateur de RMC.
N'importe quel, alors il y a Eric Dimeco ou Gilbert Bribois.
Dimeco.
Tu gagneras rien. Dimeco, il paraît qu'il est né avec une paire de boules dans les mains.
Ouais, c'est vrai.
Non, c'est vrai. Il faut écouter le Moscato Show pour savoir.
Allez, regarde, il est là, Eric, regarde. Et tu as gagné, Johan. Oh là, attends, parce qu'il faut pas que j'enlève la photo.
Il y a deux photos et tout.
Il y a deux tours.
Il y a le tirage au sort de la Coupe du Monde. Portugal. Non, c'est pas ça. Oh, t'as gagné un ordinateur portable, mon gars.
Oh, super, merci.
Il est top, il est bleu et tout. Hein. Alors, je n'ai pas donné la marque, mais je te donne juste les initiales ACER. Voilà.
Et t'as la prise à l'option.
Voilà, mais là, bravo Johan. Joyeux Noël à toi, bonne fête.
Joyeux
Noël.
Merci les gars. Merci.
Voilà, pensez à ceux qui sont sur les gars.
T'as la prise à l'option.
Bon accueil. Ayoub.
Ouais.
À ton tour, mon pote. Donc, t'as choisi Gilbert parce que t'as pas le choix.
J'ai choisi Gilbert.
C'est le jackpot, monsieur dame. T'as jeté Gilbert. Il t'offre quoi, Noël, notre ami Gilbert? Regardez. On pense au
Gilbert, en général, il offre rien du tout.
Merci, Ebo.
Ah, il offre rien, Gilbert.
Non, c'est là, regarde. Voilà.
Qu'est-ce qu'il doit avoir? Un stylo, non? C'est pas ça?
Attends, mon gars. Un slip.
Alors.
Le slip de Dimitri Lénard. Oh, t'as gagné un smartphone, mon Ayoub.
Oh, génial.
C'est top, non?
Génial. En plus, tu fais l'imitation à la perfection, là.
Ouais, mon gars, c'est le jackpot. C'est quoi, pas quoi la dire de marque. Hein. Non, j'ai pas là. Je viens de me faire engueuler.
C'est
déjà.
Motorola.
Non, ça okay, commence par un,
super,
ça finit par un S.
Merci. Hein.
Merci à toi. Joyeux Noël à toi, Ayoub.
Joyeux Noël à vous, les gars. Merci.
Merci en tout cas, merci à toutes et à tous. Ciao. Voilà, bonne fête, hein, déjà on vous le dit, hein, je vous le redirai bien entendu. Ciao, grazie mille, Simone Rivera, qui va passer ton bonheur de bonnet à Natale.
Natale.
Du coup, comment dire
pourquoi voilà. Ils ont mis une grosse boule pour deux petites boules.
Pourquoi tu dis ça pour moi
hein.
Comment tu dis ça là?
Non, mais regarde-moi ça.
Parce qu'il y en avait d'autres avant, il est bon lui. Ouais, en fin de journée, mon pote,
les
merci Ali Benardia, merci Jonathan McCarty, merci Simon Le Rovera, merci à toutes les équipes techniques qui nous ont laissé préparer cette émission, les équipes éditoriales et notamment Jérôme Thomas, on a rien compris à cette phrase.
Bonne soirée, c'est un bon petit gazon d'ailleurs.
Et à demain, ciao ciao, ouais, comme d'hab.
Le Grand Noël RMC avec ruducommerce.com.
RMC, le super football show, l'after foot.